On va laisser passer le train parce que ça va faire du bruit. C'est 1200.
Et c'est pas les enfants, on va aller plus loin.
Bien. Ce matin, j'ai essayé de vous montrer que, dans le fond, on risquait de se laisser envahir par l'esprit du monde, et que cet esprit du monde finissait par créer en nous un état d'insatisfaction. Nous n'étions pas heureux. On se laissait impressionner par l'esprit du monde et du coup, de peur de paraître des andouilles, on prenait un peu leur opinion. Mais le résultat des courses, c'est que la foi finit par diminuer en nous parce que la foi, c'est être tourné dans la confiance vers le Seigneur et donc il peut nous instruire. Mais si on prend l'esprit du monde et qu'on se ferme à ce qui est vu, il ne peut plus rien nous dire. Alors, vous voyez, on est perdant, je vous disais ce matin, parce que, tout simplement, on n'est pas tourné vers lui. Alors, ce que nous avions ébauché ce matin, c'est que... Vous m'entendez tous ?
Oui, oui.
Ce que nous avions ébauché, c'est que cette joie que Dieu nous donne, puisque le thème, c'est la joie, c'est vraiment un don de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les joies d'ici-bas, hein, qui sont des joies qui sont altérables. Si l'objet de ce qui fait ma joie disparaît, je suis dans la tristesse. Donc il y a une joie qui est constante. Et cette joie, elle nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Et donc cet après-midi, je voudrais vous parler de cette découverte, vous commencez à vous parler de cette découverte de Dieu qui est au plus profond de moi-même. Alors, continuons tout d'abord sur les pistes fausses. Souvent on se dit, non, je ne trouve rien. Alors, on ne le trouve pas par une élaboration intellectuelle. C'est pas la peine de chercher. Alors après, on peut faire de la théologie, mais on peut faire de la théologie sans croire en Dieu. C'est pas au bout d'une démonstration que nous rencontrons le Christ. Ce n'est pas non plus dans une auto-persuasion. C'est une élaboration de notre esprit. Et un jour ou l'autre, ça va craquer. Ça ne tient pas. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, ce n'est pas un raisonnement dans notre tête. Ce n'est pas une auto-persuasion. Ce n'est pas non plus, ça a été dans les décennies qui vous ont précédé, le temps de vos parents, une morale à tenir. Si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Bon, du coup, on n'a pas l'air couillon. On vit sans connaître l'amour de Dieu, mais uniquement avec un Dieu qui va nous taper sur la figure si on n'est pas sage. Donc, toutes ces voies sont fausses. Et la dernière que je viens de vous citer a été catastrophique parce que beaucoup de gens ont perdu la foi. Ils se sont dit, vous nous gonflez avec votre morale, on a envie d'être libre. Mais bon, la véritable liberté, c'est Dieu qui nous la donne. La peur aussi de ne pas aller au paradis. Donc il faut que je fasse un tas de choses, que je vérifie sur mon carnet si j'ai la moyenne. Tout ça, c'est faux. En fait, la seule chose qui tienne la route, c'est la rencontre avec une personne. Et chaque fois que quelqu'un rencontre la personne du Christ, c'est sa vie qui en est complètement bouleversée. Nous, c'est ce que nous rencontrons à travers les nouveaux convertis, ou ceux qui ont une deuxième conversion à l'âge adulte, souvent justement après avoir cherché les joies du monde, tout d'un coup ils découvrent la présence du Christ au plus profond d'eux-mêmes. Et ils n'auraient jamais imaginé une telle chose. Donc ça naît d'une relation avec d'une personne qui est aimable, le Christ, qui se fait aimer, qui nous donne de l'amour, et pour finir, tout va se développer à partir d'une relation amoureuse avec Jésus. Alors, je vous disais, c'est lui qui est à notre porte, il attend simplement que nous lui ouvrions de façon à ce qu'il puisse pénétrer en nous et se manifester à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ce matin, vous avez commencé à faire une demi-heure de silence. C'est cela qui est important. Laisser de l'espace dans notre existence pour la rencontre avec celui qui nous aime, celui qui est amour, celui qui est la vie, celui qui est la joie. Si nous ne faisons pas cet effort de nous séparer un peu de nous-mêmes, nous ne le rencontrerons pas et nous ne serons jamais heureux. Je vous dis, c'est pas en s'auto-persuadant, c'est pas en faisant un certain nombre d'activités, etc. Non, c'est en rencontrant une personne. Et c'est ultra important parce que, à ce moment-là, ce n'est plus basé sur une force personnelle, mais sur la sienne. Et on pourrait dire que cette force, qui n'est pas la nôtre, se renouvelle chaque fois que nous nous donnons à lui, et que nous allons, on l'évoquait ce matin, vers nos frères. Alors il est beaucoup plus facile.
Il y a d'autres clients.
On en prend quelques-uns pour ce soir.
Oui.
Il est beaucoup plus facile de se dire « Je ne suis pas fait pour la prière ». C'est une attitude qui est fausse, c'est un mensonge que nous faisons à nous-mêmes. Ça voudrait dire que je ne suis pas fait pour rentrer en relation avec celui qui est venu pour me sauver, qui a donné sa vie pour nous, pour que nous partagions sa joie, et sa joie à lui, c'est de se donner à nous. Sans exception, à tout homme. Alors quand on dit « je ne suis pas fait pour la prière », en fait, c'est une auto-justification d'un égoïsme qui nous replie sur nous. Alors, évidemment, si je dis « je ne suis pas fait pour ça », je ne ferai aucun effort, et après, une fois de plus, je vais en subir les conséquences. Mais si nous faisons l'effort de la rencontre, il se donne. C'est peut-être perçu sensiblement, ou d'autres jours, ce n'est pas perçu par nos sens, mais il se donne, et petit à petit, il va transformer notre existence. Donc, très important de lui consacrer du temps, qui que nous soyons. Et ensuite, à travers ce qu'il nous demande de faire, à travers nos activités, la prière, nous ne pouvons pas l'enfermer dans un seul mode. Il y a des gens qui sont très portés sur le chapelet, c'est très bien, et la Vierge y pousse, comme à Massabielle. Il y a des saints qui n'ont jamais pu lire le chapelet. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en est un exemple. C'était trop compliqué pour elle. Il y en a qui l'ont dit sans arrêt. Vous voyez, nous avons tous une psychologie naturelle qui nous est donnée par le Seigneur, et il veut l'habiter, puisque c'est lui qui nous l'a donnée. Il veut l'habiter suivant un mode qui est particulier à chaque personne. C'est pour cette raison, parfois, quand des gens vous disent « venez avec moi dans ce groupe de prière » ou je ne sais pas, moi, dans tel groupe, peut-être que ce n'est pas fait pour nous. Mais l'essentiel, c'est d'être en relation avec lui. Et étant en relation avec lui, vous l'avez compris ce matin, nous serons aussi en relation avec les autres. Donc il y a de multiples façons de rentrer en relation avec lui. Mais si nous rentrons pas en relation avec lui, quel qu'en soit le mode, nous nous refermons sur nous-mêmes. Or, si on en revient au fait qu'il est la vie, si nous nous fermons à celui qui est la vie, pour finir, nous signons un arrêt de mort. Notre propre arrêt de mort. Et par exemple, c'est ce qu'il y a, à travers ce que je viens de vous dire à l'instant, on peut relire ce qui est dit dans le livre du Deutéronome. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, si je vais à lui, la mort, si je ne vais pas à celui qui est la vie. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer Yahvé, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. Voyez, nous pouvons, en nous refusant à la relation avec lui, choisir la mort. La vie n'est pas en nous. Nous savons fort bien, la vie biologique, ça dure un certain nombre de décennies. Il peut y avoir en plus des accidents, il peut y avoir des maladies mortelles qui apparaissent, qui se manifestent dès la jeunesse, mais on peut mourir à cette vie intérieure, la vraie vie, si on ne s'ouvre pas à celui qui est la vie. Donc choisis aujourd'hui la mort ou la vie. Donc que personne ne dise qu'il n'est pas fait pour la prière. Ou alors qu'il dise franchement, je préfère la mort. Donc la véritable joie qui nous est donnée, c'est la joie de Dieu. Et il nous la communique par, nous savons, nous chrétiens, que Dieu est en perpétuel mouvement, il est Père, comme on dit dans le Notre Père. Ce que je vous disais ce matin, le Père n'a dit qu'une seule parole, le Fils. Il le dit dans un silence éternel, y allons à dire sur la prière. Et il s'échange continuellement entre eux deux dans un esprit d'amour. Or, la plénitude de la joie, si on est Dieu, on a la plénitude de la joie. Et cet échange de joie entre eux, c'est l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, nous le recevons nous-mêmes au baptême. Et là aussi, une parole, souvent, vous savez, on enregistre des paroles de la Bible comme ça, parce qu'elles correspondent à ce que nous sommes. Je vous l'ai souvent cité, c'est par rapport aux Galates. Qui justement commence à partir dans les décors, et Paul leur dit, ben, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse vivre. Et foutez-moi la paix avec toutes vos élucubrations. Vivez de l'Esprit puisque vous l'avez reçu. Et donc cette parole nous est adressée à nous. Si vous vivez de l'Esprit, vous rencontrerez la joie de Dieu, sachant bien que depuis Jésus, on sait fort bien que cette joie de Dieu peut passer à travers des souffrances terribles. Mais il y a cette joie inaltérable parce qu'elle va puiser dans l'éternité de Dieu et l'éternité, dans le fond divine, nous est donnée dès le baptême. Puisque nous recevons l'Esprit. Nous recevons le même Esprit qui a animé Jésus durant tout son ministère. Il ne nous donne pas quelque chose d'inférieur à ce qu'il a reçu, il nous donne la même chose. Mais c'est nous qui n'en faisons rien. Donc du coup, hein, notre vie a tendance à s'étioler. Alors, je vous cite ici la lettre aux Romains de saint Paul, chapitre 8e, 10-16, 8-16. Ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Alors, on l'a vu dans les pèlerinages précédents, ça n'a rien à voir avec l'entrejambe, la chair. Hein, la chair, c'est tout l'être uniquement psychique, qui vit uniquement suivant ses moyens naturels. Hein, alors, si on vit suivant ses moyens naturels, on ne désire que ce qui est naturel. Et donc, il poursuit, ceux qui vivent selon l'esprit, qui se laissent animer suivant cette partie la plus profonde d'eux-mêmes, eh bien, désirent ce qui est spirituel. Ils trouvent leur bonheur s'ils rentrent en relation spirituelle avec Dieu, ce qui vient de l'esprit de Dieu. Car le désir de la chair, du psychisme, c'est la mort. Tout le biologique est conçu pour la mort, et il y échappe à travers les générations successives. Mais, donc, il poursuit, puisque le désir de la chair, pour finir, est inimitié envers Dieu. Ce que je vous disais, la personne qui dit « je suis passé pour rentrer en relation avec lui », c'est une personne qui se ment à elle-même, et qui, pour finir, se donne cet arrêt de mort. Elle se limite à son être psychique, et on sait bien qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Donc il ne se soumet pas à cette loi d'amour de Dieu, à cette loi de vie, et ceux qui sont donc dans la chair, qui se limitent à cette activité psychique, ne peuvent plaire à Dieu, puisque pour finir, ils se coupent de leur relation avec lui. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'esprit est vie en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, puisque nous avons le même esprit que lui, ben, ressuscitera aussi notre corps. Non pas un corps charnel ou psychique, mais un corps, une corporéité spirituelle. La résurrection du Christ. C'est toujours corporelle. Du reste, Jésus demande du poisson aux apôtres pour bien leur montrer qu'il a un corps et qu'il a faim. Mais ça sera totalement animé par l'esprit. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, uniquement en vous coupant quoi, de cette relation vitale avec Dieu, ben, vous mourrez. Il ne restera plus rien. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qu'animent l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu l'esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier « Abba, Père !» De la même famille que Dieu. Souvenez-vous du baptême, hein? On fait des onctions au baptême, des onctions d'huile. Mais c'est des onctions royales. Hein, les rois recevaient le Saint-Crème, mais nous aussi, mais pour une famille beaucoup plus noble encore, puisque c'est la famille d'Israël. Voilà, ce qui fait que nous pouvons orienter notre vie de façon diverse, même en étant chrétien. Soit on peut mener une vie chrétienne uniquement par notre psychisme, soit on peut mener une vie chrétienne en nous laissant guider par l'esprit. Alors nous en avons tous fait l'expérience dans notre existence. Lorsqu'on essaye de mener nos affaires sans le Seigneur, souvent ça devient extrêmement compliqué. Et si on se livre au Christ, on s'aperçoit que dans nos vies, pas tous les obstacles, mais beaucoup d'obstacles se lèvent devant nous. C'est comme si on nous dégageait la route pour aller vers lui. Et je le répète, ça ne sera pas sans souffrance. Car justement, beaucoup de souffrances que nous rencontrons nous font sortir de nous-mêmes, nous détachent de nous-mêmes, puis plus tard, elles nous font même désirer, quand l'amour du Christ devient fou dans une personne, de partager sa propre existence. Alors, voyez-vous, nous sommes, pour en revenir à ce matin, par rapport à tous les milieux médiatiques, dès qu'on regarde un journal, dès qu'on regarde la télé, dès qu'on ouvre Internet, on est face à tous ces problèmes mondiaux qui sont terribles. Donc on va vous parler de la situation au Moyen-Orient avec ses horreurs, qui valent celles de la Révolution française. On va vous parler de tous les problèmes qui sont en France. Puis on peut vivre comme ça totalement dans une angoisse perpétuelle, ne regardant que vers les sujets d'angoisse, plutôt que de nous tourner vers Dieu et de placer, malgré les choses qui sont bien réelles, notre confiance en lui. Et à ce moment-là, notre vie, au lieu d'être bloquée sur quelque chose qui conduit au désespoir, eh bien, nous sommes plongés dans quelque chose qui conduit dans l'espérance. On citait ce matin le cas de la Révolution française. On croyait avoir quasiment éradiqué l'Église. Et regardez comment l'Église est devenue florissante au XIXe siècle. Et c'est souvent dans ces situations de précarité où, à ce moment-là, les choses renaissent. On pourrait dire même qu'en France, je le vois puisque donc je vais régulièrement en Suisse, l'Église de Suisse, elle est tâtonne, hein, il n'y a rien. Tandis qu'en France, le nombre de groupes qui se lèvent, de gens qui spontanément ont des idées pour faire quelque chose, c'est absolument extraordinaire. Moi, je pense qu'il va, d'ici 20 ans ou 30 ans, il y aura de nouveau une Église très florissante. Mais, voilà, rien ne se fait sans qu'il y ait la mort de quelque chose. Donc, nous vivons cet état de mort, mais on pourrait dire qu'en même temps, il y a quelque chose qui bourgeonne, et qui, pour nous, prêtres, on le voit, et quelque chose qui revitalise et qui nous donne de la joie. Le nombre de personnes qui arrivent et qui avaient tout envoyé bazarder, et puis qui se convertissent, souvent avec des situations, voilà, ils ont voulu faire souvent ce qui leur plaisait et qui rencontrent toutes ces douleurs. Donc, le Christ nous donne une joie qui n'est pas de ce monde, une joie qui n'est pas altérable, malgré les vicissitudes de ce que nous pouvons rencontrer. là j'avais noté, je l'ai trouvé sur internet, un prêtre de... le curé de Nantua. C'est le Jura ou l'Ain encore? C'est dans l'Ain? Alors c'est pas dans l'autre. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Aussi, accueillir l'Esprit Saint dans nos vies doit nous conduire à la joie. Mais comprenons bien de quoi il s'agit. Nous ne parlons pas d'une joie qui soit une excitation extérieure, qui risque de disparaître dans les moments difficiles, mais d'une joie stable et profonde qui stimule la foi. Ça, c'est important parce que si je me livre au Christ, je rencontre cette joie. Et tout ce qui nous fait plaisir, c'est addictif. Donc on en veut plus encore. Donc on se livre encore plus à lui. Et c'est là, je vous disais, qu'on ne pouvait pas baser ça sur la morale. Mais à partir du moment où j'ai rencontré cette joie et Dieu, ben, je suis obligé de réformer ma vie. Exactement comme si je veux faire un sport important, je suis obligé de m'entraîner, je ne peux pas faire un gueuleton la veille. Donc, à partir du moment où j'ai rencontré cette joie en Dieu, ben, ma vie commence à changer. Je vous cite là l'histoire de l'église d'Orient, l'église orthodoxe, avec Saint Séraphin de Saros. Un ami demandait à Saint Séraphin de Saros de lui expliquer le Saint-Esprit. Et au lieu de lui expliquer le Saint-Esprit, il lui en a expliqué les effets. Ben, il est difficile de parler d'un esprit, lui qui procure la joie. Donc le Saint Séraphin ne lui a pas donné d'explication, mais il lui a dit, ben, on est rempli par une extraordinaire douceur. On a rencontré la douceur de Dieu. Une extraordinaire joie aussi. On est heureux parce qu'on est aimé et que l'on perçoit cet amour en nous. Une extraordinaire chaleur. Même quand on aime, voilà, il y a quelque chose de chaleureux. Une extraordinaire suavité. Et qui est tout cela, c'est l'expérience de l'Esprit. Donc, quand l'Esprit de Dieu descend sur l'homme, il le recouvre de sa plénitude. L'âme humaine déborde d'une joie inexprimable, parce que l'Esprit de Dieu transforme en joie tout ce qu'il touche. Et donc, j'en reviens à Galates 5, 25. Si l'Esprit est votre vie, mais qu'est-ce que vous en faites? L'Esprit veut nous faire participer vraiment à cette joie divine. Et donc, par voie de conséquence aussi, malgré tout ce que nous avons à souffrir ici-bas, cette joie est quelque chose déjà de l'autre monde. C'est l'éternité commencée. D'où l'importance des sacrements aussi. Si nous ne laissons pas agir la puissance de l'Esprit qui est dans les sacrements, ça devient de la magie. Et on attend quelque chose de magique. Non, il ne se produira rien. Ouvrez-vous votre cœur. À l'intérieur, puisqu'il est dans votre cœur, laissez-le agir en vous, et à ce moment-là, votre vie se transformera. Voilà ce qui fait que nous sommes tous en quête du bonheur. Tout homme, tout être humain est en quête du bonheur. Même le plus dégueulasse est en quête du bonheur. Donc, même en tuant les autres, il cherche son bonheur. Pensez par exemple au régime nazi. Si on tue les juifs, quand même, nous serons mieux après. Donc, c'est dégueulasse, mais ils sont à la recherche du bonheur. Alors, nous savons quelle est la voie du bonheur, c'est de se livrer au Christ, c'est de se livrer à nos frères. Et à ce moment-là, donc, il y a quelque chose qui se dégage. Voilà, donc, vous l'avez saisi, si on se livre à l'esprit, si on accepte de rentrer en relation avec le Seigneur, eh bien, des choses vont se passer dans notre vie, petit à petit. N'attendons pas du spectaculaire et des manifestations visuelles, mais il y a des choses qui vont petit à petit changer. Nous n'aurons plus tout à fait la même perception des choses et peut-être même plus du tout. Nous serons ainsi transformés. Ce qui fait que, voilà, notre vie n'est plus contingentée à la vie ici-bas qu'il faut réussir à tout prix. Ça, c'est la grande différence. Je le citais ce matin par rapport à un enterrement. Quelqu'un qui est mort et qui ne croit pas en Dieu, ben c'est fini, quoi. Si possible, on fait un beau belle pierre tombale, un beau caveau, tout est fini. Donc il n'y a plus que la tristesse et du souvenir. On commémore, il y a des souvenirs. Mais celui qui est en Dieu, j'ai encore discuté l'autre jour avec une dame là, qui vient chez nous au couvent. Sa fille est morte à 39 ans d'un cancer, révoltée contre l'Église. Et puis pour finir, elle est morte pendant les vigiles du 15. Et je discutais avec sa mère qui était là le 15 août chez nous. Je lui dis, vous êtes triste, c'est normal, mais je parie que vous êtes joyeuse aussi. Elle me dit, oui, c'est ça. Je ne sais pas l'exprimer. Je dis oui, parce que votre fille a beaucoup souffert. Donc maintenant, vous savez qu'elle est dans la paix et dans la joie de Dieu. Ça vous donne de la joie. Et puis en même temps, vous êtes triste parce que le départ d'un être aimé, ben, qui que l'on soit, même Jésus a pleuré Lazare. Donc nous rencontrons, voyez, nous avons ces sentiments mixtes dans le fond. Pour nous, chrétiens, quand quelqu'un part, savoir qu'il est en Dieu dans la plénitude de la joie, et en même temps de se dire, ben oui, mais depuis là, je souffre de l'absence énormément de l'être aimé. Donc, pour nous, il y a un terme de l'histoire, même de l'histoire de l'univers. Et ce terme de l'histoire de l'univers, c'est tout, que toute chose soit récapitulée en Dieu. Mais nous ne savons pas quand, hein. On nous a cassé les pieds en 2012, je ne sais pas pourquoi, avec les trucs aztèques. Donc là, je vous cite la constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, au numéro 45. Car le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, c'est lui-même fait chair, afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel converge les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. C'est lui que le Père a ressuscité d'entre les morts, a exalté et a fait siéger à sa droite, le constituant juge des vivants et des morts, vivifié et rassemblé en son esprit. Nous marchons vers la consommation de l'histoire humaine qui correspond pleinement à son dessein d'amour, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, suivant la parole de Paul dans la lettre aux Éphésiens, l'hymne aux Éphésiens. Alors cette joie, nous la rencontrons partout, et d'abord chez Marie. Et Marie, nous savons combien elle a eu à souffrir. Cela lui est annoncé donc par Siméon dès le temple. Et je vous citais ce matin le Magnificat, par exemple. Et nous aurons l'occasion d'aborder ce thème-là au niveau de la joie, puisque la plénitude de la joie vient de Dieu. Plus je suis docile à ce qu'il me demande, plus je rencontrerai cette joie. Plus je veux en faire suivant ma tête, ben, je me calculerai des bonheurs à la petite semaine, et pour finir, je ne serai pas vraiment heureux. Et donc, ça va faire rentrer dans quelque chose que nous n'aimons pas du tout, qui est l'obéissance. Et celui qui est obéissant à ce que le Christ lui demande, rencontrera la joie de Dieu. Et il veut nous proposer sa propre vie en nous disant, il faut passer par là. Elle dit, non, moi je n'en ai pas envie, ben, continue, suivant ce qui te plaît. Mais viens pas te plaindre après. Mais l'obéissance nous fera toujours grincer les dents, mais nous rencontrerons, au-delà d'avoir posé ce geste, dans un espace de vie et de joie, nous serons encore plus libres. Parce que pour finir, si on n'obéit pas, on est esclave de nous-mêmes. Voilà, donc Marie a été la grande obéissante, pour cette raison. Et donc le pape nous dit que Elle la veut comme l'étoile de la nouvelle évangélisation, Marie. Qu'elle nous aide à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. J'aurais voulu. Alors, sur vos carnets de chants, il y a une parole qui n'est pas claire de Jésus crucifié, mais c'est Marie de Jésus crucifié.